Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial d'Europa Voice. Nous recevons en studio aujourd'hui à Melbourne deux personnalités politiques. Éric Woerth, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus en France, mais ici nous sommes écoutés par des francophones et par des anglophones qui apprennent le français, donc je vais vous présenter. Vous êtes député de l'Oise, ancien maire de Chantilly, ancien ministre du budget, ancien ministre du travail et actuellement, c'est notamment pour ça que vous êtes ici, ce qui nous intéresse, président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié parlementaire France-Australie. Madame Génoté, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas votre première apparition sur nos ondes. Vous avez déjà été notre invitée, députée de la 11e circonscription des Français établis hors de France, ancienne présidente du groupe d'amitié. D'abord, avant de parler de votre voyage ici en Australie, un mot de ce groupe parlementaire. C'est un groupe transpartisan. Il y a un président, vous, monsieur Woerth, 8 vice-présidents, une trentaine de membres. Quel est le rôle, je vous pose la question à tous les deux, quel est le rôle de ce groupe parlementaire?
Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Le Parlement français essaye d'avoir des groupes d'amitié avec les parlements d'autres pays du monde. Il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale, à peu près 150 groupes, alors plus ou moins actifs. Et l'Australie est évidemment un des groupes très importants de notre Parlement. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu de voyage de parlementaires français en Australie, sans doute pour des raisons d'éloignement, et une vingtaine d'années pour l'Assemblée nationale.
Oui, voilà ce que j'allais dire. Ouais, ce groupe parlementaire, ça fait plus de 20 ans.
23 ans, pour être exact. Ouais, donc ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu. Nous avons vu beaucoup d'Australiens à Paris, mais nous n'y étions pas allés comme groupe. Nous y sommes. Et le Sénat, d'ailleurs, a également fait un voyage au mois de septembre. Donc, on a essayé de concentrer nos forces. On a essayé, d'ailleurs, de venir ensemble pour montrer que le Parlement était uni dans l'amitié que nous avons pour l'Australie et ses institutions. Et ça n'a pas pu se faire. Mais nous témoignons de cela. L'objectif, c'est une sorte de diplomatie, je le dis en présence aussi de l'ambassadeur de France. C'est aussi une diplomatie parlementaire, donc pas active. Nous ne sommes pas le gouvernement, ni ministre des Affaires étrangères, et nous ne décidons pas de la stratégie politique française à l'extérieur. Mais nous nous y intéressons. La commission des Affaires extérieures était une commission très importante de l'Assemblée nationale, évidemment, et le fait de lier des contacts puissants, humains, mais aussi techniques, cernent les intérêts de la France.
On avait reçu la ministre des Affaires étrangères à l'époque, Madame Colonna. Elle était venue pour le lancement de la FACEF et de la FACET. On va y revenir, on va parler en détail des relations bilatérales. Madame Génoté, vous êtes venue plusieurs fois en Australie. On vous a interviewé, on l'a dit tout à l'heure, c'était en mars 2022. Donc vous êtes venue à plusieurs reprises, mais jamais dans le cadre de cette amitié franco-australienne. Vous avez dit ça fait 23 ans. Comment on l'explique? Vous disiez qu'il y avait des Australiens en France, mais la France n'était pas venue en Australie. Pourquoi?
Alors merci aussi pour votre invitation. En effet, je suis déjà venue plusieurs fois. Et d'ailleurs, je trouve que vous incarnez un mode de diffusion de l'information extrêmement intéressant qui pourrait être tout à fait inspirant pour le territoire national français. Moi, je viens régulièrement en Australie. Je viens une à deux fois par an, très régulièrement. Et Éric Woerth, notre président du groupe d'amitié aujourd'hui, l'a évoqué tout à l'heure. J'ai présidé aussi ce groupe d'amitié auparavant. Et quand je suis venue en Australie, à la fois comme député pour les Français d'ici, que je tiens à saluer, et également comme président du groupe d'amitié. Donc, si vous voulez, ce sont toutes ces relations interparlementaires qui incarnent les relations, quelque part, entre les citoyens. Chacun, nous incarnons une circonscription, que ce soit nous-mêmes ou nos homologues australiens. Nous parlons à nos concitoyens, et donc nous pouvons, à travers ces échanges, raconter, expliquer ce qu'est la nature de la relation entre la France et l'Australie. Et cette diplomatie parlementaire, elle permet aussi, nous n'avons pas les responsabilités, le même périmètre que nos diplomates, et nous pouvons parfois dire des choses plus facilement, de façon plus ouverte que la diplomatie classique l'exige. Et c'est ça également qui est tout à fait intéressant. Et encore une fois, il faut que cette relation soit très nourrie, soit très solide. Alors pourquoi autant de temps? Certes, il n'y avait pas de déplacement physique, mais il y avait quand même des échanges qui existaient. Nous avons reçu nos homologues australiens à plusieurs reprises, des échanges de toute nature, et moi je les rencontrais à chacun de mes déplacements.
Autre manière d'aborder la diplomatie parlementaire, c'est que nous votons, notamment le budget des affaires étrangères. Donc nous nous intéressons aussi aux moyens qui sont consacrés à l'action extérieure de la France.
Il n'aurait pas été judicieux de venir après septembre 2021, au moment de l'affaire Aucus ?
Il aurait été judicieux de venir à tout moment. Il est sûr que l'affaire Aucus a profondément chamboulé ou chahuté, surpris les autorités françaises. C'était une affaire qui était, le moins qu'on puisse dire, bien engagée, même signée. Beaucoup commençaient à s'implanter à Adélaïde, il y avait beaucoup d'échanges. L'Australie a décidé, puissance souveraine, elle a décidé de changer de partenaire. C'est son rôle. Ce qui a été, je pense, au cœur de l'action du gouvernement français, après Aucus, après la stupeur passée, après évidemment la colère que ça a pu développer vis-à-vis de nos amis australiens, c'était de retrouver au moins le cours normal de nos relations, d'essayer de passer à autre chose. On a une histoire à écrire avec l'Australie, on a une histoire économique, une histoire culturelle, une histoire sociale, une histoire de sécurité à écrire vraiment. Et donc il faut mettre ça de côté, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais oublier les choses. Il faudra en tirer aussi des expériences. Les expériences, je pense que ça a été fait, mais ce qui compte, c'est le rebond. Comment on rebond et comment on fait rebondir cette coopération fondamentale dans l'Indo-Pacifique, qu'est la relation entre la France et l'Australie.
On en est où de ce rebond 4 ans
post-crise ? Je pense qu'il est partout, dans tous les domaines. Il a été signé en 2023 une lettre de stratégie expliquant exactement sur quoi pouvait reposer la relation franco-australienne de façon très concrète dans les domaines de l'économie, évidemment dans celui des minerais, notamment minerais critiques, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la culture. C'est absolument fondamental. Le succès du festival du film français est absolument incroyable. 200 000 personnes qui suivent des films français un peu partout en Australie, c'est assez extraordinaire. Et puis dans le domaine de la sécurité, alors qui est là, est un sujet extrêmement fort, et on a besoin de s'appuyer, nous, France, nous, puissance d'Indo-Pacifique. Nos territoires français sont dans l'Indo-Pacifique, nous aidons l'Australie, et en même temps, l'Australie nous aide. Bref, c'est une coopération qui a tendance à plutôt s'accentuer, si j'en juge l'ensemble des relations qui peuvent avoir lieu avec les entreprises aussi de défense française, mais aussi les opérations de coopération entre les armées.
Alors là, en une réponse, on a abordé plein de points qui tous individuellement sont extrêmement intéressants si on rentre un petit peu dans le détail. Est-ce que vous utilisez la Nouvelle-Calédonie dans la sécurité justement dans la région Indo-Pacifique, la Nouvelle-Calédonie étant le plus proche voisin français de l'Australie ?
La Nouvelle-Calédonie, c'est un de nos piliers, c'est un pilier français dans cette zone du monde. Et la Nouvelle-Calédonie est au fond une base de départ, une base de coopération aussi avec l'Australie. Nous avons des moyens, militaires, nous avons des moyens matériels. Ils peuvent être utilisés par l'Australie. Nous avons... Par exemple, durant ce voyage, nous avons été reçus par les responsables et la directrice de l'AFD, l'Agence fédérale de police, l'AFP plutôt, et nous avons beaucoup discuté des moyens d'intervention français. On est les seuls à avoir des bateaux disponibles, des hommes disponibles. On pense notamment à la lutte contre le trafic de drogue, qui est préoccupant dans cette zone du monde, un peu partout, mais dans cette zone particulièrement, nous sommes les seuls à pouvoir intervenir et à le faire en collaboration à la fois de renseignement mais aussi d'action. Et donc la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une économie. Et les entreprises australiennes peuvent très très bien s'intéresser à la Calédonie comme les entreprises de Calédonie peuvent intéresser les Australiens. Donc on doit développer tout cela et je pense que les autorités françaises le font avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'efficacité.
Si je peux peut-être apporter un point d'illustration de la situation au moment du cyclone qui était passé sur Vanuatu. La géographie fait que la France, sur le plan de la sécurité civile, en l'occurrence, était la première à pouvoir intervenir dans le plus court délai. Après, les forces australiennes sont venues en appui, mais la première sur zone, c'était la France. Et ça, les Australiens le reconnaissent et reconnaissent que cette coopération est extrêmement fructueuse et utile pour la sécurité de cette immense zone pacifique.
Vous avez évoqué tout à l'heure la culture et la transition énergétique. Dans la relation bilatérale entre la France et l'Australie, il y a eu deux nouveaux partenariats de taille qui ont été créés. C'est la FACET et la FACEF pour la culture et la transition énergétique. On est à un petit peu plus d'un an maintenant de création de ces entités. Est-ce que ça a déjà porté ses fruits ?
Alors oui, nous avons rencontré les responsables de la FACET, c'est-à-dire un organisme qui privilégie et renforce les coopérations scientifiques dans le domaine de la transition énergétique. On a vu des démonstrateurs par exemple d'intelligence artificielle sur la manière dont on peut maintenir les éoliennes en mer, enfin beaucoup de choses extrêmement différentes, avec un axe fort qui est au fond évidemment un axe de écologique par principe, et puis l'axe de l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de projets qui sont en cours de constitution, hein. C'est un jeune organisme, ça a une année, c'est pas une organisation juridique en plus, c'est pas un truc à la française très lourd avec une organisation juridique, c'est quelque chose d'extrêmement réactif et agile, et qui dont l'objectif est de faire qu'il y ait une collaboration dans la recherche franco-australienne, soit en France, soit en Australie. On peut prendre l'exemple également de coopération plus industrielle, mais qui fonctionne, semble-t-il, plutôt bien. Tout ce qui concerne le offshore en termes d'éoliennes, des entreprises comme Total, des entreprises comme EDF, travaillent avec des entreprises australiennes. Il y a beaucoup à faire dans ces domaines de durables, dans ces domaines de construction au fond d'un monde un peu différent, qui produit son énergie différemment, qui la consomme différemment, qui l'exploite différemment. Nous étions dans le Western Australia, nous étions à Perth, on a vu le ministre de l'énergie, on a vu le ministre de l'énergie également sur le plan fédéral, donc on voit bien que nous, nos entreprises, comme nos scientifiques, ont beaucoup à apporter à l'Australie, et l'Australie a beaucoup à apporter aussi à la France. Et je crois que c'était des potentiels de développement tout à fait incomparables.
Et sur le plan culturel, pour l'autre versant qui est la FACEF, ça nous a permis de mettre en place le concept de résidence d'artistes. Vous savez que les Français ont un certain nombre de résidences d'artistes dans le monde qui sont extrêmement réputées. On pense souvent à la Villa Kujoyama à Kyoto, à la Villa Médicis à Rome. Et bien sur le même principe d'accueillir des artistes et de leur permettre de s'épanouir dans un environnement qui ne leur est pas familier. En l'occurrence l'Australie ici, on espère qu'on aura également des artistes. C'est l'objectif, qui pourront également partir en résidence. Je pense notamment en France, je crois que c'est la ville de Marseille qui a été identifié. Donc voilà, des échanges à travers la culture, c'est aussi une manière de se connaître de façon beaucoup plus approfondie. Et on va vraiment au cœur de ce que chacun nous sommes. Et encore une fois, c'est de nature à renforcer ces liens qui sont indispensables dans un monde géopolitique qui est quand même extrêmement compliqué, particulièrement en Australie, où ils sont sous la pression de grands géants qui ne leur rendent pas la vie facile tous les jours.
La lettre que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Wörth, qui a été écrite en 2023 et d'ailleurs signée de votre main, Madame Genetet, on l'a lu bien sûr, il y avait également comme priorité l'amélioration de la compréhension française de l'Australie. On en est où de ça?
C'est un vaste sujet, parce que l'Australie reste tout à fait bien connue, reconnue et très appréciée pour ses aspects touristiques, indéniablement. Elle reste également de plus en plus connue, d'ailleurs, et à nouveau connue après la période Covid, par les jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui viennent ici passer entre 1 et 2 ans en visa vacances-travail. Maintenant, pour aller au-delà et faire comprendre que, par exemple, du côté français, nous avons des expertises techniques, des savoir-faire qui peuvent intéresser l'Australie. Nous avons paradoxalement beaucoup d'entreprises françaises présentes pour lesquelles les Australiens reconnaissent nos savoir-faire en tant que savoir-faire, pas forcément lié au fait que nous soyons français, mais parce qu'il y a des vraies expertises qui leur sont utiles, des vrais savoir-faire industriels ou économiques qui leur sont utiles. Maintenant, il faut aller plus loin et essayer de travailler, c'est notre travail, c'est le travail d'un groupe d'amitié parlementaire aussi, de pouvoir donner envie à des Australiens de venir en France, d'y investir. Nous avons déjà des groupes australiens qui sont présents en France, je pense notamment au secteur de la santé, mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Et puis, donner toujours envie à des entreprises françaises. Certaines start-up viennent déjà ici, c'est une bonne chose, mais ce travail, il est constant. Il passe aussi par l'amitié parlementaire, par tout ce que nos entreprises également peuvent construire, les filiales de grandes entreprises, les entrepreneurs qui viennent de novo créer une structure ici. Voilà, tout ça, ça prend du temps, mais ça se nourrit, on voit que ça ne cesse de progresser. Quand on voit, je crois qu'il y a un peu plus de 70 000 Français présents sur le sol australien, c'est de bon augure. Il faut poursuivre ce travail qui est encore une fois indispensable.
Oui, entre 70 000 et 100 000. Madame Genetet, quand on vous a interviewé en mars 2022, vous avez dit peut-être que la relation avec l'Australie était prise pour acquise en France. Vous pensez toujours ça?
Oui, ce que j'ai dit, je ne le retire pas. On pensait que c'était quelque chose d'assez évident. Je pense notamment à tout ce qui a précédé la rupture du contrat AUKUS. Oui, moi, en tout cas, je l'avais perçu de cette manière-là. Chaque fois que je suis venue en Australie, la relation du côté français était perçue comme évidente, comme allant de soi. Certes, elle était travaillée, mais je n'ai jamais entendu personne la remettre en question, en imaginant qu'un jour, les Australiens pourraient changer de stratégie et se tourner vers d'autres projets. Donc d'où la surprise importante qui a été observée en septembre 2021. Donc oui, je maintiens ce que j'avais affirmé et on voit bien que maintenant nous avons repris langue et nous reconstruisons. Nous sommes repartis, je pense, sur d'excellentes bases et c'est une bonne chose. Et je pense que nous avons appris. Nous devons continuer à apprendre cette expérience. D'ailleurs, à la fois pour l'Australie et pour d'autres géographies dans le monde, il est important que nous arrivions avec beaucoup moins peut-être de certitude et beaucoup d'envie de coopérer avec prudence et une grande écoute et attention à nos interlocuteurs.
On a finalement réévoqué tous les points qui étaient écrits dans cette lettre de 2023, la compréhension française de l'Australie, la réparation des relations bilatérales après la crise d'AUKUS, la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, le sport, les énergies renouvelables, on vient d'en parler, les territoires d'outre-mer, on en a parlé également. Est-ce que 2 ans plus tard, vous avez des nouvelles priorités? Le monde a continué à évoluer, il y a des nouveaux enjeux géopolitiques, Donald Trump qui a été réélu, une nouvelle guerre au Moyen-Orient, le réchauffement climatique, le blanchissement des coraux, il n'y a aucune hiérarchie dans tous les exemples que je donne. Est-ce que vous avez des nouvelles priorités qui sont venues s'ajouter?
Je crois que nos priorités, c'est d'apporter une réponse à ce monde dangereux, extrêmement dangereux, et cette vaste zone indo-pacifique, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait pareil d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Dans cette vaste zone, c'est des enjeux considérables. Et on a besoin de s'appuyer sur les puissances et les pays qui portent les mêmes valeurs que nous. Des valeurs de citoyenneté, de fraternité, des valeurs auxquelles on tient beaucoup, sur lesquelles la France s'est construite et d'autres pays aussi. L'Australie fait partie de cela, c'est une alliée. L'Australie, c'est une amie. Et aujourd'hui, on a besoin d'amis pour tout simplement consolider sa souveraineté. C'est vrai dans le domaine commercial, c'est vrai aussi dans le domaine militaire. Tout le monde se réarme. On a besoin de le faire de façon coordonnée. On doit le faire avec l'Allemagne, mais on doit le faire aussi avec l'Australie. On doit mener des opérations communes, on doit échanger des renseignements, on doit savoir ce qui se passe dans l'espace. Donc nous avons un besoin vital, presque, de collaboration. Alors après, il y a aussi tout ce qui concerne l'économie. On voit bien que l'Australie est souvent orientée vers la Chine, ce qu'on peut comprendre, mais il y a aussi l'Europe. Et la France, comme l'Europe, sont prêtes à travailler avec l'Australie de manière encore plus forte. Regardez la capacité australienne, j'en parlais tout à l'heure, dans l'état de l'Ouest, ce vaste état qui doit faire un bon tiers de l'ensemble du territoire australien, et dont la capitale est Perth, c'est évidemment la richesse en minerais. Cette richesse, elle est située dans un pays démocratique. Elle est située dans un pays qui pense à peu près comme nous, d'une manière générale, même si on peut ne pas être d'accord sur tel ou tel point, et que notre histoire est parfois commune et parfois moins. Mais on doit pouvoir avoir des relations extrêmement fortes dans le domaine de l'approvisionnement en minerais. L'approvisionnement en minerais, ça nous permet, grosso modo, de faire fonctionner une bonne partie de notre industrie. Ça va des véhicules à nos smartphones, en passant par plein d'autres choses, et plein d'autres choses encore dans le futur. Donc on doit établir des collaboration forte. La France est prête à investir. Souvent, les Australiens nous disent ce que nous ont dit les deux ministres, qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment on peut travailler ensemble? Nous, on a besoin d'argent. Ils nous donnaient l'exemple de 3 personnes qui ont prospecté dans un endroit qui a dû être concédé par le gouvernement ou par l'État et qui ont trouvé un métal tout à fait rare. À partir de là, il faut de l'argent, passer de cette start-up à quelque chose de plus construit. Il faut des moyens. La France peut aider aussi dans ce domaine-là. Il y a une possibilité de mobiliser des capitaux pour s'inscrire dans l'avenir de cet État et de la prospection minière. Je dirais aussi que lorsque nous participons aux cérémonies patriotiques. Je suis allé à l'Anzac Day, à Villers-Bretonneux, il y a quelques mois, une cérémonie extrêmement émouvante, mais au-delà de l'émotion, c'est le partage des valeurs communes qui s'est exprimé de la manière la plus radicale. C'est qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie pour ce que nous sommes. Il y a des jeunes Australiens qui sont venus mourir en Turquie, en France, dans la Somme, juste pour défendre ce que nous voulions défendre et défendre notre territoire. Ça, ce n'est pas rien. Et on n'a pas l'impression l'impression d'ailleurs que ce ne soit rien pour les Australiens eux-mêmes. C'est, je crois, beaucoup. C'est tous les jours la cérémonie au monument aux morts de Canberra. Et donc c'est très très important qu'on puisse rappeler cela, qu'on puisse évidemment après avoir l'attitude et les postures de rationalité économique ou de rationalité politique, mais le décor général de cette rationalité, c'est quand même un lien extrêmement fort. Et ça vaut beaucoup.
Je lisais justement que quand vous êtes allé à la cérémonie à Villers-Bretonneux, malgré les 17 000 kilomètres, malgré le fait que l'événement se passe réellement ici en Australie, vous aviez quand même senti l'émotion en France et vous aviez été étonné du nombre de personnes qui continuaient à venir commémorer et que ça avait été un...
Écoutez, c'est franchement à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, donc rares sont les gens qui habitent à Villers-Bretonneux, donc il faut quand même y aller. Donc vous partez très très tôt le matin, vous rendez dans cet endroit, il peut pleuvoir, c'est complètement dehors, il n'y a pas d'abri. Pour y aller, il faut vraiment, vraiment penser qu'on a quelque chose à y faire. Et le témoignage qu'apportent tous ces Français qui viennent, le témoignage de l'école reconstruite par nos amis australiens à un moment donné dans ce village, mais le témoignage aussi de tous les Australiens qui viennent raconter l'histoire de leur famille en assistant à cela, il est extrêmement, extrêmement émouvant. Et on partage qui est le don de soi. Au fond, ce don de soi, honnêtement, ça relativise beaucoup d'autres malheurs d'aujourd'hui, parfois dans nos sociétés occidentales. Ce don de soi, il a eu lieu et on ne peut pas considérer que ce n'est que l'histoire. Beaucoup de personnes sont nostalgiques du futur. Ben, très bien, mais il faut rattraper le futur. Et le futur, il peut s'inscrire avec les mêmes valeurs, s'écrire avec les mêmes valeurs que celles que ces jeunes ont défendues à cette époque-là. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui doit trouver une solution et l'Australie fait partie de cette solution pour la France.
Il nous reste quelques minutes, je voudrais aborder le thème de la politique nationale. C'est la crise en France, on a beau être à 17 000 kilomètres, on le voit ici aussi. Nous, on voit ça de loin, on voit ça de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est de l'intérieur? Notamment vous, Madame Génoté, vous avez été ministre de l'Éducation environ 3 mois. On en est à 7 personnes qui ont eu le rôle de Premier ministre sous les 2 présidences d'Emmanuel Macron. Racontez-nous un petit peu le chaos de la politique vu de l'intérieur.
Non, mais la France, ce n'est pas que le chaos. On résume aujourd'hui la France comme si c'était un pays qui était en plein chaos. Et bon, il y a une crise politique. Enfin, il y en a eu d'autres. Hein. Cette crise politique, elle est assez simple à décrire. Nous n'avons pas de majorité. Quelle que soit la majorité, les Français décident d'une majorité, le pays fonctionne. Quand il n'y a pas de majorité, c'est plus compliqué de faire fonctionner le pays, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est très difficile de faire voter des lois, on le voit sur le budget, sans majorité. Donc il faut des compromis. Et nous ne sommes pas un pays de compromis. On n'a pas été culturellement habitué au compromis, et la Constitution d'ailleurs n'est pas tellement taillée. Elle est taillée pour beaucoup de choses, elle est absolument remarquable, la Constitution de la Ve République, mais c'est difficile de passer des compromis, c'est pas culturellement dans l'idée des partis politiques encore d'aujourd'hui. On est un peu en apprentissage. Maintenant, on a quand même besoin d'abord d'avoir un budget.
Qui est en cours d'étude à l'Assemblée nationale
en ce moment. On a besoin d'un budget, parce qu'une France sans budget, c'est pire que tout. Donc on a besoin d'un budget. C'est pour ça que la majorité relative a été d'accord pour prendre un certain nombre d'amendements du Parti socialiste qui ne ressemblent en rien à nos convictions profondes. On verra si le Parti socialiste est prêt à abandonner une partie de ce qu'il souhaite pour voter le budget. Bon, on fera des efforts pour le voter aussi, mais si à un moment donné, on ne peut pas voter non plus un budget qui ne ressemble à rien à ce qu'on penserait comme un idéal. Donc on est en train de le voir au fur et à mesure des amendements. On pense que le redressement financier de la France, il passe d'abord par une réduction de la dépense publique. Ça ne veut pas dire d'arraser la dépense publique. On restera toujours un pays où il y aura plus de dépenses publiques que dans beaucoup d'autres pays, parce qu'il y a des réponses qu'on considère comme publiques quand dans d'autres pays elles sont privées. Mais enfin, on doit aux contribuables une chose, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que souvent elle n'est pas efficace. On met souvent plus d'argent qu'un autre pays pour un résultat moindre. Donc on a besoin de se poser ce type de questions, et on voit bien que les députés, les partis politiques ont du mal à se poser rationnellement cette question. Et donc la réponse, c'est une augmentation de la fiscalité. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. On est sûrement le pays, l'un des pays en tout cas, les plus justes du monde. Le moteur de redistribution sociale, il est considérable. La réduction des écarts de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres est considérablement réduite par ce moteur de redistribution. Bon, ce moteur de redistribution, personne n'en est content. Et pourtant, il joue son rôle, simplement parce qu'il est invisible. Mais il n'est pas invisible sur le plan financier. Il coûte très très cher. Et ça correspond et ça explique le taux d'endettement aujourd'hui du pays. Donc on doit réduire notre dette pour augmenter notre souveraineté. On a besoin de construire un plan de réduction ou de refroidissement de la dépense, tout en gardant évidemment l'esprit social qui est un esprit profond dans notre pays. Mais on a besoin d'efficacité économique. S'il n'y a pas d'efficacité économique, il n'y a pas de production de richesse. Et s'il n'y a pas de production de richesse, bah, évidemment c'est très difficile de répartir ce qu'on ne produit pas. On est un peu dans ce moment charnière. Le problème, c'est que pas de majorité quand les moments ne sont pas charnières, ça peut aller. Mais un paysage aussi fractionné, quand on a besoin d'être sur tous les fronts de la transition écologique à la souveraineté impliquant des augmentations de dépenses militaires que personne ne peut contester, tout cela tend beaucoup la société. Et la réponse politique, bah, elle est un peu diffuse parce que personne n'a la majorité pour concentrer au moins une réponse.
Mais il y a ce qui est faisable, ce qui est réaliste, mais il y a aussi ce qui est idéal, vous le disiez. Et puis en France, on fait souvent aussi passer l'émotion. On voit bien, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a la taxe Zucman qui est vraiment prise par le parti de l'émotion. Vous parliez des différents partis politiques, je ne vais pas en viser un, mais par exemple, le Rassemblement national qui a proposé son contre-budget, 36 milliards d'économies. Et il y a eu la réaction sans appel de Philippe Agion, le prix Nobel d'économie, qui dit que ce n'est pas du tout réaliste.
Mais c'est de l'argent magique. C'est de l'argent qui n'existe pas. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut, mais c'est de l'argent magique, ça n'existe pas. Donc c'est pas un budget, c'est un budget de compte de fait.
Madame Genoté.
Oui, pour ajouter à ça, quand ils demandent dans leur plan d'économie de réduire la contribution de la France à l'Union européenne, je suis désolée, ça ne se fait pas. Et en disant cela, ils mettent directement en difficulté nos agriculteurs qui bénéficient de la politique européenne à travers ce qu'on appelle la PAC et qui en bénéficient tous les jours. Donc on ne peut pas s'annoncer défenseur des agriculteurs d'un côté, de l'autre côté, les priver de ce qui contribue à leurs revenus et à leur travail quotidien. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, réduire également les budgets sur tout ce qui est immigration, alors même que par ailleurs, et c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé et voté nous-mêmes, d'avoir une immigration choisie, qualifiée, compétente, qui répond aux besoins de main-d'œuvre, qui sont réels, qui ne font faire que s'accroître dans les années qui viennent. Voilà, là aussi, c'est complètement magique. Imaginez qu'on va résoudre tous nos problèmes avec quelques réductions de dépenses, qui n'est pas possible de mener d'ailleurs. Voilà, je crois qu'il faut être réaliste, ça n'est pas possible. J'aurais peut-être ajouté un point sur ce qui se passe actuellement, parce que le mot chaos, moi je l'aime pas trop, et on est très loin, on se rend pas bien compte, on reçoit l'actualité comme elle nous vient, un peu comme un boomerang,
vraiment souligné, avec beaucoup d'émotions,
voilà, avec beaucoup d'émotions. La France, elle fonctionne. Elle fonctionne aujourd'hui, les écoles sont ouvertes, les magasins fonctionnent, il y a du travail. Je voudrais souligner qu'on a d'ailleurs créé beaucoup d'emplois ces dernières années. Il y a une politique de création de richesses que nous avons menée qui a porté ses fruits. Que nous ayons envie d'avoir une juste répartition de l'effort budgétaire, oui évidemment. On se fait soigner, les hôpitaux fonctionnent, les policiers sont dans la rue. Enfin franchement, le pays tourne et c'est un beau pays, c'est un pays magnifique avec des atouts, avec de la technologie, avec des gens compétents, avec des artistes formidables. C'est un pays qui fonctionne. Il a des difficultés, mais il fonctionne. C'est à nous, politiquement, de réussir à les résoudre. Et je suis sûre que nous y parviendrons.
En général, les Français qui habitent l'étranger sont assez confiants dans la France et ils portent haut les valeurs de la France. Donc, tous nos concitoyens qui nous écoutent et qui ne sont pas en France, il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer. Je veux dire, la France, elle a un avenir radieux devant elle si elle fait les efforts nécessaires. Et on a tous les talents pour les faire. Donc, une crise politique, ça se surmonte. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle se surmontera. Je ne la sous-estime pas, je ne la mésestime pas. Je préférerais qu'on ait moins de crise politique et qu'on puisse axer son énergie sur d'autres choses. Mais c'est le cas, il faut le régler. Et moi, j'ai confiance dans notre capacité à le faire collectivement. Collectivement. Vous voyez, quand on est un groupe d'amitié, on vient en Australie, on représente beaucoup de partis politiques. On a une seule voix devant les ministres ou les parlementaires australiens et c'est bien comme ça.
Une crise politique qui en chasse une autre. Il y a un sujet qui nous fait sourire ici en Australie, c'est notamment la réforme des retraites que vous avez soutenue, Monsieur Wirth. Ici, la retraite, c'est 67 ans, on a un système par capitalisation. Est-ce que c'est une solution pour le budget 2026 de se réattaquer aux retraites ?
Mais les dépenses de retraite, c'est un quart des dépenses publiques. Donc personne ne peut penser qu'on peut s'occuper uniquement des crayons qu'on achète et pas des retraites. Donc on a évidemment besoin de s'en occuper. Mais entre adultes responsables, il y a aucun pays ne parle de retraite sans parler à un moment donné d'âge. Et on parle de l'âge de la retraite, c'est assez classique. Et donc on a besoin d'adapter une démographie faible, on a besoin d'adapter notre système de retraite. Alors on peut changer des choses évidemment, on peut créer plus de souplesse, on peut créer plus de prise en compte de la pénibilité, etc. etc. Mais à un moment donné, la réponse sur une démographie très très faible, c'est quand même d'augmenter l'âge de la retraite. Et nous avons besoin aussi de plus de travail. On a besoin que les jeunes rentrent plus vite sur le marché du travail. On a besoin de sortir un peu plus tard du marché du travail. On a besoin de résoudre nos problèmes de chômage, ce qui a beaucoup pas été fait, comme l'a dit Anne Jeunetem. Et grosso modo, en France, on doit avoir plus d'heures de travail. Sinon, on n'arrivera pas à financer notamment le modèle social. Moi, ça fait 15 ans, j'ai fait la première réforme des retraites qui modifiait l'âge de la retraite, puisqu'on était passé de 60 à 62 ans. Il y avait eu exactement les mêmes postures. Les mêmes partis politiques disaient la même chose. Les syndicats disaient la même chose. On n'a rien appris en 15 ans. On aurait pu, hein, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est regrettable sur un sujet qui est assez objectivable. Parfois, on ne sait jamais bien. On peut jouer sur l'objectivité et sur la réalité. Là, il y a une réalité forte. Ce sont des faits. Et la réponse, elle doit être une réponse humaine. On est en France. Donc on doit adapter, évidemment, le travail à l'homme et pas le contraire. Et on a besoin aussi que les entreprises adaptent le vieillissement au travail. Et donc, il faut, au fur et à mesure du temps, augmenter l'âge de la retraite.
Vous avez parlé de votre programme. C'est un programme extrêmement chargé. Est-ce que vous avez quand même un petit peu de temps en Australie pour profiter? Monsieur Verde, vous avez de la famille en Australie. Vous allez pouvoir aller la voir?
Vous êtes bien renseigné, oui. Oui, j'ai un fils qui habite à Adélaïde. Et donc, j'irai passer le week-end à Adélaïde avant de reprendre mon avion lundi matin.
Et pour ma part, je poursuivrai la mission sur Sydney, après Melbourne, pour rencontrer les Français de Sydney. Nous avons également là-bas une communauté dynamique et que je tiens à saluer à chaque fois que je passe en Australie. Ça me paraît important. Je me souviens que cette année, j'y étais deux fois dans l'année. C'est ma deuxième fois et je compte bien y revenir début 2026, comme je l'ai fait très régulièrement.
On n'a pas eu le temps d'en parler, mais votre scope, Madame Genoté, est extrêmement grand. Une très grande partie du monde, ça va d'ailleurs jusqu'à presque l'Europe. Vous arrivez à vous déplacer dans l'intégralité de votre scope?
Je n'ai pas pour objectif de me déplacer pour me déplacer. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des communautés partout où il y a des sujets à traiter et des attentes auxquelles il faut pouvoir répondre. Par ailleurs, le travail est à 90% à Paris, où nous devons siéger, par exemple, quand nous avons des débats budgétaires. Et donc, j'essaie de profiter des périodes de suspension des travaux ou des déplacements de groupes d'amitié. Donc, j'essaie de jongler. J'essaie de faire une bonne dizaine de pays par an. Je peux guère faire plus, mais heureusement, nous avons plein d'autres outils pour être en contact en permanence. Et c'est ça qui est une très bonne chose.
Anne Genoté, Eric Verte, merci beaucoup.
Merci à vous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.